Oui, bonjour, cher Daniel Mermet et toute l'équipe et les auditeurs et auditrices. Je te remercie, je vous remercie infiniment parce que je suis en train, je résiste pas au plaisir de laisser mon message tout de suite. Je suis en train d'écouter en rentrant l'émission de ce mardi 27, mais et alors là je me régale, je bois du petit lait avec la réédition du livre d'Ockenheim dont des passages très très généreusement sont lus et font beaucoup de bien dans la période actuelle, surtout quand il pleut, et donc avec les commentaires d'Alimi et de Daniel Mermet soi-même. Donc quelle réjouissance et quel bonheur d'entendre ça affubler les cônes bendites de Coussin-Peter, d'entendre parler de Glucksmann, etc., de Julie, de toute la clique, dans des termes qui réjouissent. Bon, je crois qu'il y a un petit oubli de Jesmar, qui n'est pas triste non plus, même s'il est un petit peu moins pire, si on peut dire. Mais enfin, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Voilà, donc il en faut des comme ça. Moi, je suis à Toulouse, Daniel Carpentier, et voilà, et je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, à Toulouse, il y a une belle exposition au centre de l'affiche, à Saint-Cyprien, sur 68, avec des éditions d'affiches et de petits livres. Et aussi, il y a eu une exposition pas si mal, finalement, bien qu'il y ait des livres de tous ces renégats, naturellement, à la FNAC. Voilà. Sinon, je voulais signaler aussi, pour qu'on y pense, parce que c'est là que je l'ai trouvé à la FNAC, Dominique Grange, qu'on retrouve avec un grand bonheur, ses chansons de 68. Ça s'appelle « N'effacez pas nos traces ». Alors, je ne sais pas si c'est dans les livres, dans les chansons, parce que c'est présenté avec un album, un petit album, livre illustré, etc., avec des textes de Tardy, dont j'ai appris avec un grand bonheur aussi qu'ils étaient compagnes et compagnons depuis 30 ans. Que de belles associations.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Bah, c'est Rui, déjà j'avais appelé hier, aujourd'hui, enfin, de Deauville. Alors, j'ai pas de mots pour m'exprimer, mais je suis content de cette émission, c'est vraiment sympa. Vraiment merci. Je veux juste dire un petit mot. Lev Davidovitch disait au début ils étaient révolutionnaires, à la fin ils étaient de droite, voire réactionnaires. Je pense que c'est bien arrivé avec eux, comme disait une copine, il y a la police partout. Comme il parlait des anarchistes, il disait un vieux anarchiste qui a mal vieilli, c'est quand il finit sénateur. Et là c'est pareil quoi, enfin. Tu vas bien, quoi, hein? C'est quel bonheur. Au début, ils étaient révolutionnaires à fond, et à la fin, ils étaient de droite, et à voir réactionnaires. D'ailleurs, on voit bien que Kouchner, on voit bien, quand je les vois à la télé face à Moscovici, hein, il reprochait même Manuel Valls d'être encore plus à droite que lui. Tu vois, on se lavant le linge, et puis que lui, de toute façon, il approuve bien la politique de Hortefeux qui n'est pas raciste. Et s'impose, c'est lui-même qui le disait, tu vois. Merci encore, Daniel. Et si demain, tu pourrais me répéter le nom de ce bouquin, j'ai commencé à noter, j'ai pas eu le temps, et puis j'ai pas d'internet, ni tout ça. Ça marche? Merci beaucoup à tous, et à demain, ciao.
Oui, Guy Ockenheim, oui, bien sûr, Guy Ockenheim, il a la plume acérée. Mais si on se replace en 1986, date de parution de son livre, qu'est-ce qu'il faisait, lui, de plus authentique, de plus révolutionnaire, de mieux que, je ne sais pas, moi, Serge Julie, qui tenait à bout de bras un journal tout de même différent et qui nous a bien fait plaisir pendant longtemps, que Jacques Lang, qui venait de mettre un joli coup de pied dans la fourmilière du monde culturel, que dirais-je, que Coluche, qui fustigeait les défauts de notre société contemporaine, etc., etc. Je pourrais en citer d'autres. Alors, je me demande si ce cher Guy Ockenheim, il ne faisait pas partie de ceux qui, comme selon la jolie formule d'Albert Camus, n'avaient su mettre que leur fauteuil dans le sens de l'histoire.
Bonjour, Claude Gautrin, journaliste à Saint-Alban-des-Villars en Savoie. Quel régal. Merci encore pour l'émission consacrée au livre de Guy Ockenheim. C'est un régal parce que j'ai reconnu tout à fait les idées que j'avais à propos de cette joyeuse ribambelle de fêtards qui ont commémoré le 40e anniversaire de 68, les Glucksmann, Julie et consorts, qui devraient aujourd'hui quand même être un peu plus humbles et courber un tout petit peu les chines, parce que je crois qu'ils ont intérêt, très honnêtement, à hausser à se hausser, pardon, un peu moins du col, excusez-moi, j'en bafouille, non, mais c'est pas ça, j'ai du mal à m'exprimer là, ça va pas du tout.
Oui, mais c'était pas mal quand même, hein. C'était pas mal, on a compris ce que vous vouliez dire. Merci à tous suite à, vous avez compris, l'émission d'hier. Alors, le titre du livre dont nous avons parlé, c'est « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary ». Voilà pour le titre. L'auteur, c'est Guy Hockenghem. Et c'est un livre qui est sorti en 1986. Pour cette auditrice qui se demandait dans quel fauteuil pouvait bien se reposer à cette époque-là, Hockenghem, il est mort deux ans plus tard, à 41 ans, après avoir écrit une dizaine de livres. Il était un militant, sinon je crois le créateur, mais c'est à préciser, du FAR, le Front d'Action Homosexuelle Révolutionnaire. C'était donc quelqu'un qui était très engagé et qui ne dormait pas sur ses deux oreilles en se contentant de critiquer les autres. En tout cas, on est très heureux de cette émission, que ça vous a fait réagir et beaucoup s'en sont amusés. Aussi, évidemment, à pas manquer en ce moment, le bouquin avec les dessins formidables de Tardy, comme toujours, mais là, c'est encore plus émouvant, et les chansons de Dominique Grange dans ce petit album qui s'intitule « N'efface pas nos traces ». Aujourd'hui, on va se faire une petite récré. On va revenir en arrière en feuilletant le grand livre de là-bas, si j'y suis. On fait toutes sortes de reportages, de sujets, etc. Puis de temps en temps, quand même, on aime bien aussi le plaisir, le repos et le bonheur du voyage, tout simplement. On finirait par l'oublier à force de dire « Oui, mais c'est bien joli tout ça, mais... » Ben, là, ça va être dans le « C'est bien joli tout ça ». Comme ça apparaît, parfois, retrouver un peu ces émerveillements du début à travers cette cérémonie du café. C'est un classique de là-bas, si j'y suis, c'est en Éthiopie, et c'est un moment, de ces moments suspendus comme nous les aimons. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, je suis Pierre. Je voulais pousser un petit coup de gueule contre les tests ADN, tout simplement. J'ai un de mes fils qui a 14 ans qui a participé à un petit vol de bouteilles. Bon, je cautionne pas ça, évidemment, mais un vol de bouteilles avec des copains. Il a ramené une bouteille de vin, Saint-Émilion 87 pour être précis. Et tout ça, c'est fini à la gendarmerie, avec enquête de gendarmerie et jugement du tribunal. Et en fait, à la gendarmerie, il y est allé avec mon époux, je n'ai pas pu y aller, et ils lui ont imposé un prélèvement ADN. Donc mon épouse a essayé de s'y opposer, il y a eu une petite pression de la part des gendarmes. Donc voilà, je pense que c'est le type de société qui nous attend, le moins de petits pets de travers, prélèvement ADN, fichage pendant 40 ans, parce que je me suis renseigné un petit peu sur Internet, et apparemment il y a une grosse pression de la police et de la justice pour accepter ces tests ADN. Alors j'espère qu'à l'avenir il y aura une petite levée de bouclier contre ça, et voilà quoi. Donc j'aime beaucoup ton émission, donc je trouve ça intéressant de pouvoir un petit peu exprimer tout ça. Voilà, et bien merci, et puis à bientôt.
En fait, il y a des gens qui meurent tous les jours, mais quand c'est un copain, on a l'impression que tout le monde peut comprendre. Et ce soir, Rocky est mort. Rocky nous a quittés. Et Rocky, c'était quelqu'un qui travaillait dans la famille du théâtre, au théâtre des Champs-Élysées. Et il avait 45 ans. Et Rocky, c'était un mec qu'on a bavé toute sa vie. Et ce soir, je voulais lui rendre hommage, comme je pouvais pas aller demain disperser ses cendres, eh bien peut-être que par le voix de la radio, tous mes potes du théâtre des Champs-Élysées entendront ce petit clin d'œil, ce petit hommage que je lui rends. Voilà, c'était Henri de l'Aveyron, et merci Daniel pour tes émissions, merci France Inter, que j'écoute depuis plus de 20 ans maintenant, tous les jours. À bientôt.
C'est un message pour tous les castrés et les castrées. Dans la continuité des cercles de silence organisés par les franciscains de Toulouse, afin de protester contre les conditions de vie et les traitements infligés aux étrangers sans papier, dans les centres de rétention. Il est organisé à Castres, dans le Tarn, une ronde de silence le vendredi 30 juin de 18h à 19h, place Jean Jaurès. Ni religieuse ni politique, cette démarche est avant tout humaine. Donc nous comptons sur vous, vendredi 30 mai de 18 à 19h, place Jean Jaurès à Castres. Merci à tous, au revoir.
Salut Daniel, alors t'as vu, notre président Sarkozy a été voir la France qui se lève tôt. Mais pourquoi il ne va pas voir la France qui se lève tard? Après tout, il est le président de tous les Français, non? C'est lui qui le dit. Et moi, tu vois, je me lève tard parce que, en fait, je travaille de nuit. Tu vois, donc, comme quoi tout le monde ne se lève pas tôt, quoi. Ah, en fait, super ton émission hier sur les renégats de mai 68. Allez, salut Daniel.
Sûr que la cafetière est en terre.
C'est cuite. Une cafetière en terre cuite.
Alors, elle l'a posée sur le petit fourneau. Alors, il y a cette odeur délicieuse de café qui est grillé maintenant, qui est torréfié. Les petits grains de café sont tout noirs et luisants. C'est magnifique, hein?
Et là, en attendant que le café se revienne pilé, eh bien, elle a mis déjà l'eau dans la cafetière. Et donc, voilà, ça commence.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, j'y suis, en Éthiopie, quelque part.
Flight number 2, arriving from
Là-bas,
l'Éthiopie ne ressemble pas à l'Afrique. C'est le premier sentiment qu'on a quand on arrive à Addis Abeba. Bien sûr, c'est un sentiment de Français pour qui l'Afrique d'abord n'existe pas ou peu. C'est 750 millions d'habitants de ce continent habitent dans une parenthèse par rapport à la mondialisation. Mais dans cette parenthèse, il y a une autre parenthèse qui est encore l'Éthiopie. L'Éthiopie ne ressemble pas à l'Afrique, à notre Afrique à nous, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, que nous connaissons, que nous sentons quand même un petit peu. Et la différence fondamentale, c'est le sentiment qu'on éprouve en arrivant. Nous n'avons pas ce sentiment, soit pour les uns de culpabilité en tant que blanc, soit pour les autres de supériorité en tant que blanc. Ici, point de fardeau de l'homme blanc. L'Éthiopie est un pays à part entière, est un État-nation à part entière. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. C'est le seul pays de ce continent africain qui n'a jamais été colonisé. Et c'est la première chose que vous sentez. On vous le fait pas sentir, mais on manquera pas à l'occasion. Très chatouilleuse sur leur souveraineté. On peut même parler de nationalisme, surtout avec cette guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Mais il y a cette histoire dont les Éthiopiens sont très fiers, pas seulement de n'avoir jamais été colonisés, ou si peu, par les Italiens, mais il y a cette histoire que vous percevez tout de suite, vous comprenez en arrivant là que vous êtes dans des hautes eaux mythologiques. Le christianisme, cette écriture éthiopienne, le seul pays du sub-sahélien qui connaisse l'écriture, une écriture ancienne qui a d'ailleurs été dessinée par un Arménien. Et puis c'est une Afrique qui est tournée plus donc sur la mer Rouge, c'est une histoire de façade maritime. L'Éthiopie est tournée à la fois vers la péninsule arabique, l'influence est importante, vers l'Inde qui passe par ici, vers la Méditerranée, vers la Terre Sainte, vers Alexandrie, on pense à la Grèce aussi. Donc on est dans une autre Afrique que celle que nous percevons et qui devrait nous être plus familière que ce qu'elle est, celle de la France-Afrique, celle de notre précaré. On va laisser tout de suite Addis Abeba de côté. On est monté avec nos amis Weldé et Ambaye, notre amie Anne aussi, qui est une chercheuse qu'on va retrouver au cours de ce voyage. On est tout simplement dans une petite ville des hauts plateaux du Shoah, en pays Amara, une ville qui s'appelle Debre Berhan, une ville très ancienne. On ira faire un tour à l'église qui est très ancienne, très intéressant, évidemment passionnant, le culte éthiopien, de l'église chrétienne éthiopienne. Mais là, on rentre chez Yilma et Amré qui nous attendent pour le café. La nuit est tombée, il fait froid, on est sur les hauts plateaux. Et on s'assoit, on ne se dit pas bonjour. La cérémonie du café a commencé et elle continue. Elle est très lente, très longue. On a voulu cette lenteur pour faire connaissance, se sentir, se ressentir et se rapprocher du reste du monde. C'est curieux parce que chez nous, au fond, il n'y a pas de rituel du café, mais enfin, quand même, c'est le moment de la pause, café, du repos, du petit moment où on se détend, où on cause un tout petit peu, ça se fait très vite, très mal, mais de façon lointaine, ça ressemble un petit peu. Voilà, ça y est, le café est pilé. Elle remet de l'eau dans la cafetière qui est sur le fourneau. Voilà,
met la... Avec une toute petite cuillère, on met la poudre de café, le café moulu dans la cafetière en terre, en haut, dans le goulot en haut. Et puis, on remue le tout. Et puis on verse, et puis on reverse. Voilà la première tasse. On la reverse par le goulot du haut. Il y a un aller-retour de café qui m'échappe un peu.
C'était pour mélanger la poudre à l'eau. Donc tu verses et tu reverses par-dessus. Tu verses et ça permet de mélanger un peu plus la poudre à l'eau dans la cafetière.
Alors là, c'est vraiment... On voit bien qu'il y a une volonté de plaisir du nez aussi, hein, des parfums. Parce qu'après, le parfum... du café fraîchement torréfié, maintenant c'est l'encens. Et puis alors, c'est d'une finesse extraordinaire. C'est pas un encens de... C'est très très fin. Hein. C'est vraiment un bonheur, là. C'est un plaisir.
On ne peut séparer l'encens du café. Ça fait partie d'une cérémonie de café. On met toujours un peu d'encens. Toujours, toujours, toujours.
Tout ça peut venir, cet encens. Oh, il faudra aller trouver ça du côté de l'Arabie, de la reine de Saba, du Yémen et des transports comme ça, d'encens et de myrrhe qui se faisaient à travers le Yémen. Il devait y avoir une histoire comme ça. En tous les cas, c'était un produit très, très précieux, quoi. C'est génial, hein. Et à chaque fois qu'on prend le café, on fait tout ça.
On fait tout ça. Et c'est souvent les maîtresses de maison qui sont très attachées à faire le café, c'est important pour elles.
C'est la femme qui fait le café, c'est l'affaire des femmes.
C'est toujours l'affaire des femmes.
Oui, c'est son rôle à elle, c'est sa maison, quoi, c'est ça.
C'est elle qui décide et...
Qui décide à qui elle va offrir la première tasse, c'est ça.
S'il y a des invités, bon, la première tasse revient aux invités, à celui qu'on...
qu'on veut honorer le plus.
Voilà. Sinon, c'est pour le maître de maison.
Le premier. Bien sûr. Mais le maître de maison, il est particulièrement royal, là. Hein, ce monsieur qui est avec sa toge blanche, que vous appelez Gabi. Hein,
Gabi, exactement. Qui est très utile dans ces coins. Il fait froid comme ça le soir. Hein, c'est vraiment...
Mais c'est un bonheur de parfum, là, d'odeur.
Et puis c'est agréable parce que c'est souvent des moments effectivement très calmes où t'es avec des gens que t'aimes bien. C'est très très agréable. Et puis en plus, ce qui ne gâche pas le tout, c'est que le café est très bon après.
Alors on attend.
Voilà, ce qu'il faut toujours faire d'abord, ce qu'il faudrait toujours faire d'abord, c'est mettre sa pendule à l'heure. À l'heure du pays où on arrive, se mettre dans le rythme. Et ce serait toujours, presque toujours sur cette planète, pas toujours, mais dans des pays comme celui-là, ce sera un ralentissement. Ce sera un ralentissement, ce sera un autre temps, une autre durée, d'autres gestes, et donc d'autres relations et d'autres réflexions. Il faudrait vraiment toujours commencer comme ça, par cette cérémonie du café, qui peut-être a cette fonction. Ce qui est curieux, c'est que ça s'appelle Buna, le café, en amharique, la langue nationale, et, alors que le café d'Éthiopie vient d'une région du sud-ouest de l'Éthiopie qui s'appelle Kaffa et qui a donné son nom au café. Dans le monde entier, on dit café, des tas de déclinaisons, mais à partir de ce mot d'origine, et mystérieusement, enfin pour des raisons que j'ignore moi, on dit Buna. On est donc, il fait nuit dans cette pièce peu éclairée en rond autour du café, autour de cette famille qui nous accueille, mais tout est assez solennel, jusqu'à l'alcool. N'oublions pas que les chrétiens, Noé oblige, ont cette différence fondamentale avec l'islam de vénérer l'alcool.
Est-ce que vous voulez goûter à l'araké ?
C'est quoi l'araké ?
C'est ce qui permet de se réchauffer le soir. C'est cet alcol de d'orge.
Ah ben on est obligé. On fait notre métier de journaliste. Nous, il faut qu'on connaisse tout. Qu'on découvre tout pour faire tout découvrir.
Oh, oh, qu'est-ce qu'on apporte là?
Alors à chaque fois qu'il y a le café, il y a ce qu'on appelle le déjeuner du café, le bulnakurs, et qui en fait il y a toujours un petit truc à manger qui est offert avec le café. C'est des petits amuse-gueules, ça peut être des petites graines grillées comme tout à l'heure, ou ça peut être alors un peu.
Ah, c'est du blé, c'était délicieux ces petites graines de blé grillées.
C'est toujours quelque chose de très léger, hein, c'est histoire d'offrir quelque chose à manger avec.
Et ça c'est quoi?
Donc c'est de l'injera avec du piment.
L'injera c'est la crêpe, c'est là-dedans que tout se fait quoi. C'est à la fois le pain, la crêpe et le fond du plat quoi.
Avec du piment.
La dame a rincé les tasses, elle a remis un peu d'encens.
Toujours, elle va en remettre au fur et à mesure, à chaque début de le premier café, le deuxième, le troisième, rincer les tasses à chaque fois.
Mais alors l'alcool vient au bon moment. Hein. Comment tu appelles ton alcool?
Araké.
Araké?
Araké.
Araké. Une goutte. Hein. Juste une petite goutte parce que je conduis mon micro. Mmh. C'est pas mal, hein?
Ici, il n'y a pas de bouilleur de cru. Beaucoup de maisons font eux-mêmes leur propre alcool. Et en fait, ils ont un alambic très artisanal avec un tuyau souvent en plastique pour qu'il y ait la distillation. Et voilà, ce que je t'avais dit, la première tasse.
Ah, j'étais sûr que c'était pour le VIP. Merci beaucoup. Chacun reçoit sa petite tasse.
Si c'est la maîtresse de maison qui fait le café, elle ne se lève pas pour donner les tasses, elle désigne pour un tel, elle la lève et il y a toujours un enfant de la maison qui fait la distribution.
Là, c'est un baillet qui fait l'enfant de la maison.
C'est l'enfant de la maison.
C'est vraiment le meilleur café du monde. Hein. Parce qu'on l'a vu faire, on l'a vu venir, on l'a attendu. C'est ça un rituel. Explique-nous, Mbaye.
Three times per day.
Trois fois par jour.
The make coffee.
On fait le café.
Morning time.
Le matin.
During the lunch.
Pendant le déjeuner.
And that's the end of the day.
Et à la fin de la journée.
Between 7 and 8. Between,
entre 7 et 8 heures, généralement.
Yes. In Kepia, between. Yes, it's between 7 and 8.
Ah oui, so, entre 7 et 8 heures, parce qu'il y avait une mésentente sur le calendrier, sur l'horaire.
Ouais, mais alors ça, moi, je comprends rien à vos horaires. La journée commence à 6 heures du matin, ce qui correspond pour nous à 6 heures du matin, c'est zéro. Et donc, 7 heures du matin, c'est 1 heure, 8 heures, c'est 2 heures, 9 heures, c'est 3 heures, 10 heures, c'est 4 heures, 11 heures, c'est 5 heures, etc. C'est 6 heures de moins. Et midi, c'est 6 heures.
Et à 12 heures, c'est-à-dire pour nous 6 heures de l'après-midi,
ça redevient zéro.
La journée est coupée en 2 fois 12 heures.
Voilà. Voilà. Ah, y a, ça, c'est une première grande différence entre le temps occidental et le temps éthiopien dans la division de la journée. Et puis après, il y a un calendrier, puisque vous avez des mois de 30 jours.
Coffee.
Hein?
Now it is the second,
là, elle est en train de préparer le second
voilà,
café.
Voilà, ta maman est en train de préparer le deuxième café. Alors là, la maman distribue différemment. C'est d'abord le maître de maison. Après le fils. C'est moins cérémoniel, là. Alors voilà, il est exactement 11h. 37 minutes et 31 secondes, j'ai bien dit 11 heures, ça, voilà l'heure éthiopienne. Et à 18 heures chez nous, eh ben, il sera 0 heure en Éthiopie. Il sera 0 heure de la nuit, puisque dans ce pays, vaste pays, 2,5 fois la France, je crois, hein, l'Éthiopie, le jour apparaît à peu près tous les jours de l'année à la même heure, au même moment. Hein, et puis la nuit tombe au même moment. Donc voilà ce choix de diviser le temps comme ça. Et puis il y a un 13e mois, puisqu'il y a 12 mois, et puis ce petit mois qui continue. Autre façon de mesurer le temps, mais aussi autre sens de la durée. Et puis, qui d'ailleurs peut s'exprimer à travers le goût
pour les odeurs là dans cette cérémonie du café, il y a le parfum du café torréfié, il y a le parfum de l'encens, et puis alors très souvent dans les maisons, ou des maisons avec des murs d'argile, plaqués sur des structures de branches ou de bois, sur le sol, en terre battue, on dispose le matin des herbes fraîches comme ça qui donnent un parfum. Alors nous on est un peu troublés, ça fait un peu paille des tables, voilà. Et c'est pas ça du tout, c'est un charme, c'est un plaisir, et je pense que c'est lié aussi avec ce goût des parfums. On entre dans ce pays donc par ces rituels, par cette lenteur dans cette maison.
Alors voilà, c'est fini, on rembarque les tasses. Voilà. Ah oui. Ça c'est la cuisine.
L'organisation.
Ah, ça sent un peu la grange de mon enfance. Il y a une lampe au plafond qui éclaire un peu jaune, comme ça, on dirait vraiment dans une... Oh, c'est magnifique, une peinture hollandaise du 17e. Alors là, qu'est-ce que je vois d'abord? Fais attention où je mets les pieds. Ça, c'est le foyer. Hein.
Ça, c'est le foyer, c'est le fourneau. T'as différents feux pour faire différentes choses. Là-bas, c'est pour faire l'injera, la galette. Là,
ah, oui.
Tu vois? Donc avec le couvercle, etc. Et donc, elle a dit ses différents feux, elle a ses étagères, c'est très organisé.
Oui, c'est très ergonomique. Hein. Là, le bois arrive par là. Là. C'est complètement en terre, je vois un peu plus clair maintenant.
Tout est en terre, même les...
Les rebords des foyers.
Les foyers, le foyer
lui-même. Le foyer lui-même, oui. Tout est en terre. Et qu'est-ce qui est suspendu sur le fil? Là, c'est des viandes, des abats, des tripes.
Souvent, quand on tue un animal, la viande, tu peux pas la manger. On peut pas la manger d'un seul coup. Donc on fait des petits filets, on la fait sécher. Elle se conserve vachement longtemps. Et on peut refaire de la sauce avec.
Ouais.
T'as vu, c'est incroyable. Il y a des étagères qui sont faites comme ça, à même le mur en terre.
Oui.
Tout est conçu.
Toute l'architecture. En fait, l'architecture est en bois, c'est en pisé, quoi, avec une terre qui est mêlée de paille.
Voilà, et on recouvre le tout de purin.
De purin?
Ça lisse le tout.
Oui, c'est ça, tout est très précis, très... frugal.
Et à part la bassine bleue, tous les ustensiles sont faits en plâtrerie, en poterie, en bois, en terre.
Là, il y a juste l'arrivée du plastique avec ce seau bleu.
Là, il y a les piments qui sont en train de sécher.
Seau bleu. Qu'est-ce que tu fais voir?
Il y a une sorte.
Ah, ça, c'est tous les outils, tous les couteaux dont elle se sert. Fais voir, montre.
C'est dans un panier, en fait, c'est le tiroir de la cuisinière.
Oui, c'est le tiroir de la table de la cuisine.
Oula.
Ça, c'est tous les couteaux et ustensiles. T'as vu ça? Les serpes.
Ouais, avec une petite manche.
C'est pour couper la viande ou couper les herbes. C'est le trésor, hein.
Et là, c'est l'arc pour filer le coton.
Oui, d'accord. Elle file encore le coton, tu crois?
Ah oui. Souvent, quand tu fais un gabi, tu achètes le coton.
Le gabi, c'est-à-dire c'est...
Cette toge blanche que
tout le monde porte.
Souvent, la maîtresse de maison achète le coton à l'état brut. Donc il faut le filer, il faut le nettoyer, il faut le filer sur des bobines, et après tu donnes ton fil au tisserand. Il y a beaucoup de choses ici que tu fais toi-même dans la maison. Tu achètes très peu de produits finis. Donc tu achètes le coton à l'état brut. Et souvent, c'est un plaisir. Donc quand tu offres quelque chose à quelqu'un, tu as filé.
Oui, tu as fait toi-même, évidemment, ça a une valeur. Etc. Ah oui, c'est un endroit merveilleux. On est très curieux, hein. Voilà comment on file la laine. Ah, là, il y a un petit nœud. Il est en train de faire des bobines, c'est-à-dire qu'il y a l'axe de la bobine qui est constitué par un petit tube de bambou
qui est qu'elle emmanche sur un axe qu'elle fait tourner très très vite. Et elle tourne, elle va faire comme ça une petite bobine. Et c'est avec ça qu'elle pourra tisser ensuite sur un métier à tisser. Je ne sais pas à quoi il peut bien ressembler ce métier. Mais ça c'est pareil, cette toche blanche là, le gabi, est réservée aux chrétiens. Les musulmans ne portent pas ça. C'est la tribu, c'est le signe.
Voilà, mais tout à l'heure on est passé dans des pays qui étaient plutôt homo, et si t'as vu, les gens ne portaient pas de toche blanche dans un premier temps, mais plutôt des choses de couleur.
Oui, oui, tout à fait. Il y avait un marché aux engrais là sur la route.
Les gens des couleurs vives, des trucs verts, rouges.
Oui, oui.
C'est quand tu arrives vraiment en terre chrétienne, à Mara, que les gens portent ces toches blanches.
Salam laki, Maryam dengeln sıhtı. Salam laki, Maryam dengeln sıhtı. Salam laki, Maryam dengeln sıhtı. Yaçın ırgıbı, yaçın olala fıtratı. በሰላምታ እስኪኖዝ ዛትቂት የአምላክናት የሰማይ የምድር ፈጣሪ የእርሶ አዝማሪ እዝራና ዳዊት በባህሪ ቃል ኪዳኗ ማይፈርስባት ነዋሪ እልፍ አእላፍ መላእክት አሏት ነባሪ ያገልግሉሽ ብሎ የሰጣት ፈጣሪ እኛን ይዛ ፍጥረት ዓለሙን መካሪ ወላላዊት ቤዛዊት ዓለም ብጽዕት ከወተት ውዳሴ ስቶን በእውነት ከወለላ ታምርሽ ግሩም ሲበላ የብርሃን ዘውድ የብርሃን አክሊል ደፍተሽ ድረሽልን በሰረገላ ሆነሽ ይሸሻሉ አጋንንት አንቺ ሲያዩሽ የባብ ያላ ግሩም የሆነ ዳመና ላመናት ሰው የምትደርስለት ተጭኖ
Et on était très admiratif devant votre cuisine, hein, tout à l'heure là. On est allé voir votre cuisine, on était...
Vous attendez pas, c'était pas rangé.
C'est la première fois qu'on prend le café en Éthiopie. C'est chez vous. Et je vous remercie.
Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu aimes bien?
C'est merveilleux, je trouve. C'est un parfum de mon enfance. Quand j'étais enfant, on torréfiait le café comme ça. C'est vraiment un très très bon café.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est un pays qui n'a pas été épargné, cette Éthiopie, un des pays les plus pauvres du monde, même s'il faut nuancer cette appréciation, puisque c'est avec nos chiffres à nous qu'on évalue cette pauvreté, mais elle est considérable, elle est souvent visible, même s'il ne faut pas confondre la pauvreté et le malheur, mais c'est un pays qui n'a pas été épargné. Un demi-siècle avec le Négus, le Rastafari, un demi-siècle de pression féodale, suivi de 17 années de dictature marxiste-léniniste, le Derg, avec la figure de Mengistu. En 1991, les Tigréens, qui étaient en guerre contre ce régime, le Derg, ont pris le pouvoir à Addis Abeba, et c'est un basculement, puisque c'est le groupe Amara, j'aime pas dire ethnie, c'est un mot que je trouve très moche, avec des significations des sous-entendus terribles, disons les Amara, qui étaient au pouvoir et qui l'ont perdu en 91, mais ils l'ont conservé, peut-on dire, parce qu'ils incarnent la culture centrale de l'Éthiopie. Et là on est dans une famille Amara, le rituel du café est lié tout à fait à cette culture principale très très ancienne qui remonte à la reine de Saba et qui est la culture dans laquelle le christianisme est arrivé. C'est au moins, les Amaras revendiquent ce christianisme qui est arrivé chez eux avant nous. Nous étions, nous autres Gaulois, encore largement païens au moment où les Éthiopiens construisaient leurs fameuses églises monolithiques. On continue donc cette première contact avec l'Éthiopie autour de tasses de café.
ከተፈተለ በኋላ ለቃቄት ይባላል ይሄ ከዛ እንደገና በዚህ ይደወራል ይሄ ድውር ይባላል ይሄ ለሸማኔ ይሰጣል ያንን ለሚሰራ ሰውዬ ይሰጣል እሱ እንደዛ ያለ ጋቢ ሰርቶ ይሄው ላይክዚስ ምሳሌ እዚህ ላይ ነኩታ
Ah, c'est très fin.
Pour faire ce genre de gabi, c'est moi-même qui le prépare.
Ah, ça c'est une robe.
Ça c'est moi-même qui l'ai fait.
C'est doux.
C'est des robes pour les mères. C'est moi-même qui l'ai fait. C'est moi-même qui ai tout préparé.
Là,
c'est
moi-même.
La broderie là, c'est où ça? C'est moi-même qui l'ai fait.
C'est très très beau. Ça c'est vous qui l'a porté?
Oui, c'est pour moi. C'est pour moi, je l'ai fait.
C'est un...
C'est vaporeux comme tissu.
Ah, voilà, hein, c'est
magnifique.
Elle va nous l'essayer, elle enlève son gilet.
Ah oui. Ah ben ça, c'est un honneur, alors. Voilà, alors elle passe la robe.
Tu peux en avoir
que ça.
Eh oui.
Ça va avec.
Ah oui, oui, le liseré qu'elle porte est assorti au liseré que porte son mari. Voilà, elle met ça, elle... Voilà. Quelle majesté. Ah, là, voilà. Cette grande toge dont elle s'entoure. Et il faut...
Pour aller à l'église. C'est la culture de nos mères.
Bien sûr. Qui vous a appris tout ça?
J'ai appris. Depuis que je suis petite, je faisais ça à la campagne. Après, je suis allée à Addis, j'ai fait des études, je suis devenue institutrice. Maintenant, je suis à la retraite et donc je continue à filer.
Ouais. Vous étiez institutrice ?
Oui.
Voilà, on était instituteurs, mon mari et moi, et maintenant on est à la retraite. On a déjà élevé nos enfants et maintenant on est à la maison et on s'occupe de nous. Voilà, maintenant je suis assis avec mon mari.
Et voilà, et c'est la vie. Qu'est-ce qui a de changé de plus important dans votre vie, que vous avez vu changer autour de vous?
Le plus grand changement pour moi dans ma maison, c'est que mes enfants aient grandi, ils vivent tout seuls et que je suis dans ma maison. À la retraite avec mon mari.
Mais autour de vous, dans votre pays, qu'est-ce qu'elle était pour vous le changement le plus grand?
J'ai vu beaucoup de changements. J'ai connu l'empereur, j'ai connu le Derg, maintenant ici.
Vous avez connu l'empereur, vous avez connu Mengistu, et maintenant.
Yes.
C'est fou, hein? Des grands bouleversements.
Au moins trois gouvernements.
Parce qu'en même temps, on a l'impression que beaucoup de choses ont changé et que rien n'a changé quand on vous voit dans cette robe avec votre gabi, votre toge. On a l'impression que c'est éternel. Le café, on a l'impression que c'est éternel.
Exact.
Est-ce que vous avez voyagé à travers l'Éthiopie?
Non, je ne la connais pas en entier. Ici, dans les environs.
Addis Ababa, Bahar Dar.
Addis Ababa, Bahar Dar.
Debrezaïn, Nazareth.
C'est pas très bon, je ne connais pas beaucoup.
Et le monsieur, alors, on n'a pas parlé du tout avec vous. Il faut qu'on le dise trois mots quand même. Alors, on a une façon de faire. On parle entre nous. Hein? Et puis on finit par le maître de la maison, mais ça se fait pas, on devrait pas.
Merci. Merci. Elle dit que c'est la mère en premier.
Ah bon, non, ça va, ça va. Donc vous étiez instituteur?
Ah, d'abord que j'étais marié.
Oui, j'étais instituteur.
Quand on aura tu me retiens toi, tu es pas là dans un programme que vous avez la vie, d'abord que j'ai encore
Et puis après, au niveau d'Ankober, j'étais responsable des programmes.
Les majeurs anglais, non, minor history, non.
En majeur, je faisais de l'anglais, et en mineur, c'était de l'histoire.
Alors, vos livres d'histoire ont changé trois fois.
Ah,
oui.
C'est ça, trois fois.
C'est ça, hein.
Oui. Exactement, trois fois.
Une fois, on disait que le mieux, c'était l'Empire. Une autre fois, on disait que le mieux, c'était le dogme.
Le paradis socialiste.
Il y a un homme à Tarekello.
Ben maintenant, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire.
C'est la fin de l'histoire, c'est fini.
Il n'y a rien. Il n'y a plus rien.
Oui, oui. Il n'y a plus rien maintenant.
Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons.
Si on parle de la vie, soit c'est de la c'était très peu cher la vie. Le derg, ça allait encore. Ça allait. Mais maintenant, on ne sait rien. On ne sait plus. On ne comprend
pas.
On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils vont. C'est un mauvais jeu, la politique.
On ne sait
pas où est la vérité.
Et vous savez, la règle de la politique, c'est dire. Ne jamais dire ce que je fais, ne jamais faire ce que je dis.
Ça, on le sait, c'est clair. C'est un beau proverbe. C'est clair.
On va vous laisser, on vous remercie encore une fois.
Bonne route, on vous remercie aussi.
Merci de votre hospitalité. On n'a plus froid du tout maintenant. Hein? Au revoir.
Happy night.
You too.
You're okay.
Bye bye. Thank you. Comment dire au revoir?
Donadoru.
Donadoru.
Donadoru, bonne nuit.
Ah bah ça va ça, Donadoru.
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 Rentrez en paix, c'est très beau.
Là-bas, chouchou, oui.
Ender koyene tut gittim ya lut irsish karuki sebalu kobla la aynochish eredale batish sankano deretish melkishis agenet sobekum gadaynish Melkishis agenet sobekum gedaynish Worknku almas nesh Ethiopia wit loga Hullu yadenek esh Kak olas kedega Yihew yedilishin Enchi metasebya Simishnew kengidih Wezerit Ethiopia Simishnew kengidih Wezerit Ethiopia kezi shlomi birtukan neubunchish tsagrish ya beselom mekanew angetish tutochish menderin yaskom jinnet yalesh enkenelelebish kekonjoch belaynesh enkenelelebish ከቆንጆች በላይነሽ
Merci à tous, merci à tous, merci à Debré Béran. La ville d'Emre Béharan et aux parents d'Ambaye, à Ato Yilma, à Viro Amré, à Anne Bollet, je sais pas ce qu'elle devient, Anne Bollet, et Veldé Gabriel. C'était un reportage avec Guy Ventil en Éthiopie. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez écouter cette émission, réécouter cette émission pendant 24 heures. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Je rappelle que sur ces deux sites, sur celui de France Inter comme sur là-bas.org, vous pouvez laisser des messages et des commentaires autant que vous voulez. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Arnaud Chapat, Yann Chouquet et Koyen Guyen ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, et c'est Christophe Humbert qui s'y colle en matière de répondeur, dont le numéro, vous le savez, est le 01 56 40 37 37. Et puis si vous voulez vraiment vous faire plaisir, ne manquez pas la page 3 du Canard Enchaîné aujourd'hui, qui parle de notre président de la République et de sa virtuosité dans l'art de la statistique, et qui revient sur l'histoire des grutiers de Barcelone et d'Anvers qui font 4000 heures par an. Mais c'était pas la seule, ni la première. Il y a un florilège de bourdes et de chiffres bidonnés. C'est un sourire que nous offre notre président de la République. Rétame.